France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Saskia Deville.
Et c'est l'heure d'accueillir notre invité. Bonjour Laurent Bonnaire.
Bonjour.
Bienvenue dans Musique Matin. Vous êtes directeur de Château de Versailles Spectacle. On a le plaisir de vous recevoir ce matin pour une triple actualité, on peut le dire. Une fin de saison bien chargée, un festival d'été. Et puis pour parler un petit peu en amont déjà de ces grandes festivités de l'an prochain, puisque nous fêterons les 250 ans de l'Opéra Royal de Versailles. Une 10e saison qui s'achève aussi. L'occasion de faire le point, un petit regard en arrière, Laurent Bonnaire.
Il y a 10 ans, on n'aurait jamais pensé d'aller 10 ans plus loin et d'arriver où nous sommes aujourd'hui, sans argent public, avec à l'origine un bâtiment qui n'était pas spécialement en capacité de faire de l'opéra et du spectacle. Et aujourd'hui, c'est une centaine de représentations, l'année prochaine 10 productions scéniques, plus 3 de ballet. Voilà, c'est beaucoup de public, beaucoup de contentement et peut-être au monde, la scène qui fait le plus de musique baroque, entre guillemets, ancienne. En gros, là où tous les autres opéras auront une tendance à faire de Mozart à aujourd'hui, nous on va plutôt faire de avant, c'est-à-dire Monteverdi, Cavalli, jusqu'à Mozart.
Et ça, c'était une volonté dès le départ, Laurent Bonnaire?
C'est pas une volonté, mais c'est le lieu qui l'indique quelque part. Dans le cliché que nous aurons tous de Versailles, et encore plus de cet opéra construit pour Marie-Antoinette, il y a le 17e, il y a le 18e siècle, il y a le baroque au sens très large du terme, dans le baroque de Beaussan, un petit peu comme ça. Et évidemment, c'est plutôt ça qu'on va y faire, même si Carmen ou Wagner peuvent y avoir leur place, c'est pas la question. Mais pour ça, il y a d'autres établissements en Ile-de-France qui le font très bien, et avec beaucoup d'argent public, avec beaucoup de public. Donc on a moins besoin de faire ça. Par contre, si on veut tirer une carte qui soit spécifique, ben ça va être la carte peut-être de la musique française, et peut-être de la musique plutôt sur instruments anciens et d'avant la Révolution française.
Thank you. L'ouverture de feuilleton Jean-Baptiste Lully, Vincent Dumestre et puis le poème Harmonie qui tient un extrait de ce disque paru sous le label Château de Versailles dont on va parler avec Laurent Brunner, notre invité directeur de Château de Versailles Spectacle, pour parler notamment de ces 250 ans de l'inauguration de l'Opéra Royal de Versailles. Alors je vais faire appel quand même à l'historien qui sommeille en vous, Laurent Brunner, racontez-nous cet événement.
C'est le 16 mai 1770, c'est finalement l'inauguration de l'Opéra Royal, à l'occasion du mariage du futur Louis XVI, qui est encore dauphin, et de Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche. L'événement le plus important, quasiment, qu'on puisse imaginer à l'époque à la cour de France, à part un sacre, c'est le mariage du dauphin. Le dauphin, c'est l'avenir. Et ce dauphin-là, c'était un peu le Macron de l'époque. Alors le Macron d'il y a un an et demi, c'est-à-dire l'espoir, la jeunesse, l'archiduchesse aussi, enfin la paix avec l'Autriche, avec des siècles de guerre qui se terminaient. Et on a construit l'opéra pour cela, pour les trois soirées de fête, c'est-à-dire une soirée d'opéra, on comprend très bien ce que c'est, une soirée de bal avec la scène transformée en scène de, en piste de danse quelque part, mais aussi la salle remise au même niveau, un peu comme à Vienne encore aujourd'hui on le fait pour le bal, et puis une soirée de banquet. Et c'est à cet usage unique des soirées de mariage royal qu'a été faite l'opéra royal, qui a servi moins de 40 fois en 20 ans. Alors là, on fête cet anniversaire dans quelques mois. Et c'est l'occasion de revenir non seulement sur son histoire, mais plutôt que de faire une soirée inaugurale, une soirée mémorable, je pense que c'est plus intéressant de faire un programme avec des œuvres comme ça qui se déroulent et qui font le panorama, on va dire, de l'histoire de l'opéra en France, depuis les prémices, le Ballet Royal de la Nuit qu'on va reprendre. Ou
avec l'ensemble correspondant, c'est Sébastien Dessé.
Ou Arcole Amante avec Raphaël Pichon, le premier grand opéra composé pour la cour de France. Et puis jusqu'au premier opéra de Lully, Cadmus et Hermione en concert, qu'on va réenregistrer avec d'ailleurs Vincent Dumestre. Et puis comme ça jusqu'à la Révolution, et peut-être même jusqu'à une espèce de fausse fin, puisque l'opéra royal a fermé. Et la famille royale est partie de Versailles, peut-être aussi à cause d'un air de Richard Cœur de Lion de Grétry, chanté dans l'opéra par des officiers. Donc on va rejouer cet opéra. Quelque part, ça a fermé en 1789, et c'est la fin de la monarchie française à Versailles, avec Richard Cœur de Lion de Grétry, et on va réouvrir avec Richard Cœur de Lion de Grétry.
Eh bien voilà, comme quoi toute la question de symbole également. J'imagine aussi, quand on programme une saison un petit peu particulière, on va dire, de ces spectacles donnés au château de Versailles, à la chapelle évidemment, mais à l'Opéra Royal de Versailles, on cherche aussi à inscrire ces événements, peut-être cette commémoration aussi, ces 250 ans, cet anniversaire plutôt, dans la modernité, Laurent Brunner.
Alors oui, c'était l'occasion de se dire, tiens, on va faire un opéra du XXe siècle. Alors du 20e, pas du 21e, jamais joué en France, et le hasard fait qu'il s'appelle les fantômes de Versailles.
Ça tombe bien, et puis premier opéra du 20e aussi présenté au château de Versailles.
Voilà, c'est ça, c'est la première fois que l'opéra de Versailles, d'ailleurs, va présenter une œuvre contemporaine au sens large du terme, commandée par le Metropolitan Opera de New York pour son propre centenaire. Et John Corigliano leur a livré une espèce de fable autour de Beaumarchais, Marie-Antoinette, Figaro, qui au paradis se retrouve, et Beaumarchais a l'idée saugrenue, parce qu'il est amoureux secret de Marie-Antoinette, d'essayer de transformer le cours de l'histoire. Il va falloir voler le collier de la reine, qui ainsi ne deviendrait plus un sujet de vindicte populaire. Alors il envoie Figaro sur le métier, c'est très compliqué, et finalement il décide de descendre quand même dans l'arène, et on réassiste au procès de Marie-Antoinette, enfin version un peu Lloyd Webber, hein, version un peu comédie musicale américaine, ce qui fait une œuvre particulièrement qui aura sa place vraiment à l'Opéra de Versailles et qui n'a jamais été représentée en France, une seule fois en Europe sur une scène allemande, alors que c'est un grand succès aux États-Unis.
Et ça va être l'occasion de marquer un tournant peut-être dans la programmation aussi, Laurent Brunner, c'est une volonté peut-être de s'aligner aussi sur ces expositions d'art contemporain qui sont proposées aussi à Versailles.
Alors quand l'ouverture on organise
du répertoire.
Quand on organise des expos d'art contemporain, finalement on travaille sur un autre type de public ou un autre type d'événementiel. L'Opéra contemporain, c'est beaucoup de moyens et on ne les a pas spécialement. Là, il y a une opportunité très forte et on le coproduit avec le festival de Glimmerglass dans l'état de New York que dirige Francesca Zambello, bien connue des Parisiens, enfin plus il y a une quinzaine d'années pour les mises en scène qu'elle faisait à l'opéra. Donc ça nous permet de faire ce projet. Je suis pas certain que demain on devienne la scène idéale pour l'opéra du 21e siècle. Mais pourquoi pas, s'il a un lien.
Un extrait de la messe du Roi Soleil de Jean-Baptiste Lully, interprété ici par l'ensemble Marguerite-Louise Gaëtan-Jarry à la direction. Un disque paru sous le label du Château de Versailles, car ça, Laurent Brunner, c'est aussi une nouveauté d'il y a quelques mois déjà, hein, mais une volonté peut-être de continuer à se développer, de proposer d'autres projets. Ce qui peut paraître à première vue un petit peu étonnant quand on connaît la situation du marché du disque aujourd'hui.
Ben justement. Parce que c'est devenu, peut-être le disque est plus maintenant une signature ou une carte de visite la plupart du temps. Il faut essayer aussi qu'il soit le compte-rendu ou une des étapes d'une démarche. Et quand on propose à Gaëtan, ce qui était le cas l'année dernière, de faire la messe du Roi Soleil dans le cadre d'une journée de Louis XIV, ça avait aussi un sens, c'était de le publier et de faire un objet plus fini que simplement la prise de concert, éventuellement travailler autrement. Et peut-être la première fois où on entend ces fanfares de fifres et de tambours à l'entrée de la chapelle comme le roi les avait, l'alternance de l'orgue, du plein chant, des grands motets. Bref, une espèce de projet que le disque permet de faire, qui est pas le même que le concert. Et aujourd'hui, les jeunes ensembles notamment, bien c'est une vraie logique pour eux de pouvoir leur proposer la production d'un spectacle, le spectacle et le concert accompagné du disque finalement. C'est vraiment un accompagnement intéressant pour
eux. Et au-delà des artistes, à qui s'adresse alors cette collection de disques, Laurent Brunner ?
Alors d'abord à ceux qui aiment la musique, parce qu'il y en a plein. Et puis par ailleurs, on a aussi à Versailles beaucoup de public touriste, enfin de l'étranger qui passe et qui n'est pas obligatoirement
spécialiste. Alors je vais quand même raconter à nos éditeurs, vous êtes arrivé en studio avec les nouveautés, parce que moi je suis toujours très gâtée hein, en tant que journaliste. Vous avez notamment, vous m'avez notamment donné une version du disque dont on vient d'écouter deux extraits en chinois. Tout simplement. Donc,
oui,
vous adressez
que,
aussi
oui,
au public qui vient visiter le château de Versailles.
Oui, on le fait bien sûr, on va dire, les livrets des CD sont toujours en français, anglais, allemand. Mais on a aujourd'hui un public qui est un peu différent, qui est le visiteur. Et dedans, il y a beaucoup de Chinois. Et ceux-là ne parlent ni français, ni anglais, ni allemand.
Mais apprécient la belle musique.
Alors, ils vont apprécier la belle musique, oui, parce que le développement des concerts de musique classique en Chine est phénoménal sur les 10 dernières années, comme d'ailleurs leur présence en tant que touriste. Et c'est le mot marché d'avenir, marché sans doute pas économiquement pour le disque. Mais en tout cas, un public en devenir est très demandeur de qualité et d'originalité. Donc ce qu'ils viennent chercher chez nous à Versailles, par exemple, c'est une spécificité très forte qu'ils n'ont pas chez eux. Bon, bah, le CD va leur donner la même chose.
Et c'est ça qui fait sans doute le succès après 10 ans aussi, une 10e saison à Versailles, évidemment, pour ces productions. C'est le fait de pouvoir eh bien, profiter à la fois de ce public du château de Versailles pour continuer à nourrir et à faire avancer vos projets. Je pense aussi aux autres projets musicaux que vous organisez, Laurent Brunner, dans le cadre de Château de Versailles Spectacle, ces grandes eaux, ces spectacles nocturnes aussi, qui permettent de financer aussi les productions, les grandes productions lyriques. Et puis artistes, ces excellents artistes à qui vous êtes très fidèles aussi. On retrouve souvent les mêmes artistes que vous accompagnez depuis des années. Je pense à Pygmalion, je pense à l'ensemble Correspondance, à l'ensemble Marguerite-Louise qu'on vient d'écouter aussi.
Oui, bien sûr.
Comment est-ce que vous les repérez ? Qu'est-ce que vous cherchez chez ces artistes-là ?
Alors d'abord, j'ai pas trop de mal à repérer Pichon ou Dossé.
Aujourd'hui,
peut-être au
non.
Début, oui, peut-être au début, mais c'est des gens qui font très bien la musique ancienne et à un moment, il fallait leur donner les moyens de pouvoir agrandir les effectifs ou faire des grands projets. Donc en gros, de pouvoir relever des défis. Et c'est à cet endroit, au moment du défi qu'on relève, que soudain on passe des caps. Donc je pense que maintenant pour Pygmalion ou pour Sébastien c'est fait, pour Gaëtan c'est en train, et pour beaucoup d'autres aussi, je pense à Valentin Tourné qui, pour faire sa première passion selon Saint-Jean à 21 ans chez nous, faisait une étape. Alors on verra l'étape prochaine. Et puis pas que des jeunes, parce que c'est important aussi de se dire que certains musiciens, pour des raisons de parcours professionnel, ont beaucoup de choses à nous apprendre, mais ils n'ont pas eu la possibilité de diriger un ensemble, parce qu'ils n'en ont pas fait. Et on fera l'année prochaine des projets, je pense avec Stéphane Fuget par exemple, qui est quelqu'un d'adoré de tous les musiciens, et qui va faire des grands motets, comme peut-être on les a jamais fait, et il fédère autour de lui plus par amitié que par institution. C'est peut-être aussi ce qu'on fait, on n'est pas vraiment une institution. Le château, oui, mais pas nous. Et par contre, oui, Gardiner, Koopman et plein d'autres gens viennent régulièrement. Et ça, je crois que c'est une grande chance.
Et on retrouvera notamment un grand fidèle de ces spectacles au château de Versailles, Hervé Niquet, son concert spirituel très prochainement. Ce sera ce samedi à la Chapelle Royale. Et ce dimanche, Lucille Richardot, cette excellente chanteuse qu'on adore, aux côtés de Jean-Luc Haut, notamment pour terminer cette saison, les 250 ans l'an prochain. On en reparlera bien évidemment sur France Musique en temps voulu. Et d'ici là, le Versailles Festival qui se tient jusqu'au 12 juillet. Bien, énormément de dates. Vous trouverez le détail sur le site Musique Matin sur francemusique.fr. Évidemment, Laurent Brunner, on va se quitter avec Lucille Richardot. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin et puis à très bientôt.
Merci.
À réécouter sur francemusique.fr.